Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Léonie Bischoff. Bonjour Léonie.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
Léonie Bischoff, vous êtes autrice et dessinatrice de bande dessinée. Vous avez déjà reçu plusieurs prix. Votre travail est déjà remarqué. Il a été remarqué par la ville de Genève et vous avez aussi reçu le prix de la SCAM.
Oui.
Vous avez publié donc plusieurs ouvrages et cette rentrée, vous signez un très beau roman graphique inspiré de la vie de la romancière Anaïs Nin. Et vous avez dédié votre album
oui.
à des femmes.
Oui.
Alors à qui vous les avez dédiés ?
Alors d'abord à mes grands-mères, Evelyne et Janine, à ma mère Karine, à ma sœur Clémentine et à ma nièce Willa. Et je ne sais plus exactement la formulation, mais à toutes les autres femmes dans ma vie qui inventent leur vie et qui m'inspirent. C'est ouais, tous ces petits actes de courage et d'autodétermination que je vois autour de moi.
Donc c'est à elle que vous dédiez ouais. ce roman. Et il sera question de ça, il sera question de femmes aujourd'hui qui inventent leur vie. Léonie Bischoff, vous avez choisi comme journée particulière le 2 septembre 1995. Ce jour-là, vous découvriez le film La leçon de piano de Jeanne Campion.
La voix que vous entendez ne sort pas de ma bouche. C'est ma voix intérieure. Je ne parle plus depuis l'âge de 6 ans. Personne ne sait pourquoi. Pas même moi. Mon père dit que c'est un don secret. Et que le jour où je déciderai de m'en servir pour arrêter de respirer, je mourrai. Aujourd'hui, il m'a mariée à un homme que je n'ai pas encore rencontré. Ma fille et moi, nous allons bientôt le rejoindre dans son pays. Mon mari a dit que mon mutisme ne le dérangeait pas. Il écrit ceci, écoutez. Dieu aime les créatures muettes, alors pourquoi pas moi ? Il serait bon qu'il ait une patience divine. Car le silence finit par affecter tout le monde. Ce qui est étrange, c'est que je ne me sens pas silencieuse à cause de mon piano. Il me manquera pendant le voyage.
Léonie Bischoff, je vous voyais écouter très attentivement le début du film La leçon de piano. Vous connaissez ce prologue par cœur, j'imagine.
Presque par cœur, en français, en anglais. J'aime bien la voix française. La voix anglaise a l'air encore plus jeune. Elle a vraiment une voix d'enfant. C'est sa voix dans sa tête.
Alors ça, c'est la voix de l'héroïne, Ada. Léonie Bischoff, vous vous souvenez que ce 2 septembre 1995, c'était un samedi ?
J'aimais beaucoup, adolescente, le cinéma. Et j'y allais pas si souvent que ça, donc ça passait beaucoup par la visite au vidéoclub. Je me rendais à vélo, j'allais souvent avec ma sœur, parfois avec ma mère, choisir un ou deux films pour le week-end. Et celui-ci, je l'attendais. J'en avais entendu parler, je lisais le magazine Première à l'époque. J'étais vraiment un peu fan de cinéma, voire je découpais des photos à coller dans ma chambre, vraiment l'adolescente. Et ce film, je l'attendais vraiment. J'avais vu qu'il avait été primé à Cannes. J'en avais vu des extraits, des photos. Et je pressentais un grand amour pour ce film.
Alors vous êtes allé donc ce 2 septembre 1995 au Vidéoclub pour louer la leçon de piano. Et que s'est-il passé, Léonie, quand vous avez visionné le film ?
Alors, je pense qu'il y a eu une sorte d'envahissement de tous mes sens, à part peut-être l'odorat, mais déjà parlons de la musique, cette bande originale qui est hallucinante, donc le piano très présent mais pas que. Ce film évoque le toucher par les tissus, l'humidité, la moiteur, le froid aussi, le sable. Ce film déjà m'a séduit visuellement, il y a des lumières incroyables, il y a ce visage absolument fascinant de Holly Hunter qui est muette donc tout le long du film et qui s'exprime avec ses yeux, avec ses mains, avec toute sa stature, un personnage d'une volonté incroyable, qui est très frêle physiquement, très petite, mais qui impose une force hallucinante, et puis la grâce virevoltante de sa fille qui papillonne comme ça tout autour. J'ai été submergée en fait par cet univers.
Alors là, le son de piano, c'est un film romantique. Hein. Léonie Bischoff, c'est une histoire de passion et d'amour entre cette femme Ada, mutique, et son voisin, un peu brut de, brut de décoffrage, et qui est interprété par Harvey Keitel, et qui est fou de désir pour elle.
Ada. Ada. Je suis malheureux. Parce que je vous veux. Parce que je n'ai plus que vous à l'esprit et que je ne peux plus penser à rien. Voilà pourquoi je souffre. Je suis malade de désir.
Harvey Keitel, donc amoureux, magnifique. Léonie Bischoff, vous aviez 14 ans en 1995. Vous aviez déjà vu un corps d'homme nu, comme Jeanne Campion a filmé le corps de Harvey Keitel?
Non, justement, je pense que ça a vraiment fait partie aussi du choc, de la révélation qu'a été ce film. C'était vraiment un corps que je ne m'attendais pas à pouvoir trouver beau. Du haut de mes 14 ans, lectrice de Jeune et Jolie ou je ne sais quelle. Voilà, on me proposait Brad Pitt, en gros, comme le seul modèle acceptable d'homme que j'étais censée désirer. Et là, tout d'un coup, confrontée à cette scène où Harvey Keitel, amoureusement, passe la poussière avec sa chemise sur le piano, tout seul dans sa cabane, avec des rayons de lumière qui tombent et sur le piano et sur son corps, je me suis trouvée très troublée. Et mon trouble m'a troublée, parce que ça ne correspondait pas à ce que j'étais censée trouver beau. Et puis, il y a effectivement cette histoire d'amour qui commence presque de manière un peu glauque, avec une forme de prostitution, où donc le personnage joué par Harvey Keitel propose à Ada de récupérer son piano touche par touche, sous le prétexte de lui donner des leçons de piano. En fait, il veut l'écouter, la regarder jouer, et il dit au début faire des choses pendant qu'elle joue. Et ça se construit d'une manière qui aurait pu être glauque, mais en fait qui ne l'est pas, parce que quelque part, il va toujours lui demander la permission, il va toujours accepter ses refus. Et c'est vraiment quelque part elle qui impose ses règles et qui accepte petit à petit des contacts. Et ce sont des contacts qui ne ressemblent pas du tout à ce que j'avais vu non plus jusque-là dans le cinéma. C'est pas ce schéma classique du « on s'embrasse puis on se jette sauvagement sur le lit et voilà, et c'est fini ». Là, tout est tellement progressif. Il y a ce minuscule trou dans le bas de Ada et donc Harvey Keitel est sous la table et caresse du bout du doigt le demi-centimètre carré de peau qui émerge de ce bas. Il y a la scène où elle enlève donc sa chemise, donc sa nuque et ses avant-bras sont dégagés. Et enfin voilà, c'est des choses très subtiles et on sent petit à petit que le trouble est partagé. Et chez Ada, le désir ne peut pas vraiment s'exprimer et en même temps on le pressent. Et ça, je pense que c'est vraiment la magie de Jane Campion, la magie de son regard féminin, de sa façon à elle de filmer en tant que femme. Et je crois que c'est aussi pour ça que ce film m'a tant marqué. Je pense, sans en être sûre, mais je pense vraiment que c'est le premier film d'une réalisatrice que j'ai vu de ma vie, en fait.
Et d'une réalisatrice, tu regardes une femme sur qui érotise le corps masculin.
Oui, aussi.
C'est ça aussi.
C'est vraiment un regard porté sur le corps des hommes avec un désir féminin. Il y a une autre scène qui est très troublante, qui concerne du coup l'autre personnage masculin, donc joué par Sam Neill, qui est le monsieur que Ada devait, enfin, a épousé, et avec qui elle n'a aucun lien, et donc il ne consomme pas le mariage. Il y a vraiment quelque chose de très froid, de très distant entre eux. Et dans l'évolution de son histoire avec George, donc joué par Harvey Keitel, elle se trouve habitée par un grand désir, et elle se trouve à un moment curieuse quand même de ce mari qu'on lui a donné. Et par contre, elle refuse que lui la touche. Elle va, elle, dans sa chambre et lui caresse une première fois le torse. Et de nouveau, il y a des plans sur ses mains très sensuelles où elle va toucher avec le dos des doigts. Elle va toucher d'une manière exploratrice, curieuse, pas du tout...
Ses fesses.
Oui, et dans un second temps, ses fesses. Et cette scène est incroyable parce que on sent que tout d'un coup, lui est terriblement gêné. Il remonte son bas de pyjama et il se redresse. Et oui, il a peur. Cette vulnérabilité des fesses masculines est très belle, je trouve.
Dites-moi, vous avez une vraie fascination pour ce personnage de Ada.
Oui. Oui, oui, elle a, je crois que c'est sa force, vraiment, qui m'a impressionnée. Je pense que, adolescente, et encore maintenant, je cherche ma force, je cherche ma volonté, je cherche quelque chose qui ne se laisse pas dévier de son chemin. Et je pense qu'Ada vraiment incarne ça. Elle a une sorte de détermination et de courage qui contrarie beaucoup de gens. Elle est du coup un peu désagréable, elle est perçue comme capricieuse ou voire folle. Mais en même temps, elle se tient droite et elle ne flanche pas.
En 1995, Léonie Bischoff, Björk chantait « Oh, it's so quiet ». Mais vous, Léonie, vous préférez cette chanson-là? Léonie Bischoff, je crois que vous avez aussi une très grande admiration pour Björk. Elle fait partie de ces femmes qui ont inventé leur vie pour
complètement
vous.
Et qui ont inventé aussi un univers qui est à la fois visuel, sonore, un caractère très spécial. Des femmes qui font pas trop de compromis en fait, ou qui si elles en font, les font intelligemment et pas juste pour faire plaisir. Et ouais, beaucoup d'admiration pour elle, pour sa folie et pour ouais, son originalité, quoi. C'est unique ce qu'elle fait.
Et cette chanson-là particulièrement ?
Oui, c'est la première chanson de l'album Homogenic qui m'avait énormément marquée. Et bah, le fait que l'album s'ouvre sur cette chanson qui est, où elle dit « je suis une chasseuse », en fait, elle part en chasse. J'ai toujours imaginé qu'elle partait en chasse d'idées ou de rêves ou de matériaux pour créer, pas de choses pour se nourrir physiquement.
Un peu comme vous.
Oui, quelque part.
Alors, le 2 septembre 1995, c'est la journée particulière de la dessinatrice Léonie Bischoff. Ce jour-là, vous découvriez donc la leçon de piano réalisée par une femme, par Jeanne Campion. En 1995, Léonie Bischoff, vous étiez une adolescente et vous aviez déjà un goût prononcé pour les héroïnes de fiction au caractère trempé, comme par exemple Ripley,
oui,
dans Alien, interprété par Sigourney Weaver.
Ok Ripley, je suis devant le sas de sécurité.
Nous sommes décontaminés, laissez-moi en fait.
Qu'est-ce qui est arrivé à Kane?
Quelque chose s'est accroché à l'huile, pour l'emmener immédiatement à l'infirmerie.
Quel genre de chose? Donne une définition claire.
C'est un organisme. Ouvre le sas.
Attends une minute. Si nous le laissons entrer, l'appareil peut être infecté. Tu connais la procédure de quarantaine.
24 heures de décontamination.
Il peut mourir en 24 heures. Ouvre le sas.
Écoute-moi, si on n'applique pas la quarantaine, on peut tous mourir.
Enfin, est-ce que tu vas ouvrir cette saloperie de sas? Il faut tout de suite le faire entrer.
Non.
Je ne peux pas. Et si vous étiez à ma place, vous en feriez autant.
Ripley, c'est un ordre. Ouvre immédiatement le sas.
Oui.
Je te dis que c'est un ordre. Tu as entendu?
Oui, j'ai très bien entendu. La réponse est négative.
Léonie Bischoff, Ripley est une femme qui dit non, c'est ça,
ouais,
qui vous plaît.
C'est marrant que vous passiez cet extrait parce que j'avais oublié ce détail-là. Mais effectivement, Ripley est de nouveau une femme qui ne se laisse pas diriger par d'autres, qui a une idée très précise de ce qu'elle doit faire. Même si toute la situation part quand même en sucette autour d'elle, mais je crois que j'avais vraiment, adolescente, une fascination pour des femmes très viriles, en fait.
Ouais.
J'avais de la peine avec la féminité, j'avais pas encore lu les textes féministes, j'avais pas encore compris pourquoi je me sentais si mal face à l'image de la femme classique, de la bonne épouse ou de la bonne fifi, et je voulais surtout pas ressembler à ça. Et donc les seuls modèles que je trouvais, c'était des femmes extrêmement viriles, comme Ripley ou Sarah Connor, en particulier dans le deuxième Terminator où elle a des bras ultra musclés, un Marcel Blanc comme Bruce Willis, vraiment des choses très très masculines, mais en même temps j'y trouvais une forme de féminité qui m'attirait tellement plus que les autres modèles auxquels j'avais accès. Et quelque part, bizarrement, la Ada de la leçon de piano a un physique très très féminin. Et à cette époque-là, je m'amusais à me faire des grandes tresses collées comme elle. J'avais même acheté une petite chemise vintage sur un marché aux puces extrêmement féminine et comme un carcan de corps de cette époque-là. Donc je cherchais vraiment des modèles parce que ce qu'on me proposait ne me convenait pas, quoi.
Alors peut-être que ces modèles, vous les avez trouvés dans les héroïnes que vous avez créées, Léonie Bischoff, parce que vous avez à chaque fois, dans vos BD, choisi des femmes qui ont une volonté très forte et qui demandent plus de place que celles qu'on leur accorde. Et puis évidemment, il y a ce dernier roman graphique, j'aime beaucoup ce terme de roman graphique, parce que c'est un roman avec des dessins magnifiques, où vous êtes donc inspirée de la vie de Anaïs Nin. Quand est-ce que vous avez découvert Anaïs Nin? À quelle occasion, Léonie Bischoff?
Alors, je l'ai découvert en deux temps. La première fois, je m'en souviens très bien, parce que, un peu même période, 14-15 ans, je faisais beaucoup de babysitting pour gagner de l'argent de poche. Et j'étais déjà grande lectrice, j'ai toujours beaucoup aimé lire. Et donc, mon grand plaisir, c'était d'explorer les bibliothèques des familles dans lesquelles je babysitais, une fois les enfants couchés. Et j'ai découvert le Vénus Erotica d'Anaïs Nin, qui m'avait quand même un peu choquée parce qu'elle parle, les nouvelles érotiques qui sont dedans sont souvent attachées à des thèmes assez glauques, déjà l'inceste, des rapports d'âge ou de domination, qui m'avaient mis mal à l'aise. J'avais eu évidemment que le temps de le feuilleter, mais j'avais retenu son nom et quelque chose d'intrigant. Et quelques années plus tard, étudiante en BD, je suis tombée sur les volumes des journaux correspondant à la période dont je parle dans l'album, des versions censurées mais qui étaient quand même déjà très intrigantes. Et là, je suis tombée dedans, quoi. Sa voix m'a vraiment fascinée.
Alors, on écoute quand même un petit peu Vénus Erotica, une des nouvelles de Vénus Erotica, pour donner un avant-goût.
Sans problème.
Linda se rappelait son premier réveil sensuel, alors qu'elle était encore très jeune. Sa mère lui avait acheté une culotte trop petite pour elle et qui la serrait entre les cuisses. Elle avait irrité sa peau et la nuit, avant de s'endormir, il fallait qu'elle se gratte. À mesure que le sommeil la gagnait, ses doigts se faisaient plus doux et elle se rendit compte que c'était là une sensation agréable. Sous ses doigts, elle sentit quelque chose se durcir, qui devint encore plus sensible que le reste. Quelques jours plus tard, elle devait se confesser. Le prêtre était assis sur une chaise et elle dut s'agenouiller à ses pieds. C'était un dominicain et il portait une longue corde avec un pompon qui pendait sur son côté droit. Lorsque Linda se pencha au-dessous des genoux du prêtre, elle sentit le pompon la toucher. Le pompon dur qu'elle sentait juste à l'endroit sensible entre ses cuisses avait sur elle le même effet que ses caresses de la nuit précédente. Elle désirait entendre la voix du prêtre, chaude et suggestive, lui parler de rêves impurs. « Te touches-tu quelquefois avec la main ?» Ce fut à ce moment précis que Linda eut envie de faire un mouvement de friction contre le pompon pour atteindre cet extrême bien-être une nouvelle fois. Et, simulant le remords et la honte, elle se jeta contre les genoux du prêtre, penchant la tête en avant comme pour pleurer. Mais c'était, en réalité, parce que le contact du pompon l'avait fait jouir.
Léonie Bischoff, vous vous souveniez de cette nouvelle-là, de Vénus Erotica ou de Anaïs Nin ou pas du tout?
Si, je m'en souvenais pas, mais elle est très drôle et très jolie. Celle-ci me dérange beaucoup moins que d'autres que j'ai pu lire.
Et pour un dimanche après-midi, c'est parfait. Dites-moi, Léonie Bischoff, vous vous reconnaissez en Anaïs Nin? Qu'est-ce qui vous plaît tant chez elle?
Sur certains aspects, oui, je me suis reconnue en elle, en particulier à cette période où elle n'est pas encore un écrivain reconnu, pas du tout. Elle est vraiment débutante, elle est très peu sûre d'elle. Moi, je l'ai découverte à une période où j'étais aussi apprentie autrice de bande dessinée. Et donc, son combat et sa frustration, sa très grande frustration à ne pas arriver à écrire quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'elle peut imaginer, là, je me suis beaucoup reconnue là-dedans. Et ça a été, je ne peux pas dire un guide, parce que je pense que ce n'est pas quelqu'un qui peut servir réellement de guide, mais une inspiration, oui, c'est sûr, pour essayer de me convaincre moi-même que ma voix, en tant qu'autrice, avait une valeur. Il suffit de trouver la forme, en fait.
Alors, c'est la publication en France du journal d'Anaïs Nin qui l'a fait connaître au grand public. 7 volumes sont parus entre 1966 et 1981. J'imagine que vous êtes plongée dedans, mais je vous propose, Léonie Bischoff, d'écouter Anaïs Nin parler de son journal.
Votre journal 1931-1934, qui vient de sortir chez Stock, est salué comme un événement littéraire. Henri Miller a déclaré « Le journal d'Anaïs Nin prendra place entre les confessions de Saint-Augustin, Pétrone, Abélard, Jean-Jacques Rousseau et Proust ». Oui, car il s'agit là d'un ouvrage extrêmement important. Quand, pour la première fois, madame, avez-vous commencé à tenir votre journal ?
J'ai commencé à l'âge de 11 ans, quand j'ai su qu'à cause de la séparation de mes parents, ma mère nous amenait en Amérique. Je craignais naturellement la perte de mon père. Le journal était vraiment un journal de voyage. J'allais faire des descriptions de l'Amérique pour qu'il vienne nous voir. Mais ma mère ne m'a pas laissé lui envoyer. Alors ça changeait un peu de caractère. D'être une lettre pour mon père, c'est devenu un peu un refuge dans une nouvelle vie. La recherche d'abord de qui je suis et où je suis, et après de refaire ce pont avec le monde et les autres que mon père avait brisés, que la séparation avait brisé. Un des thèmes centraux, je pense, c'est que les chocs de la vie peuvent nous séparer de la vie. Et toute la recherche du journal, c'est de pouvoir recevoir ces chocs sans mourir.
La voix d'Anaïs Nin en 1970, Léonie Bischoff.
J'adore cette voix. Elle a cet accent indéfinissable. Et ce qui est curieux, c'est qu'apparemment, elle avait un accent en anglais, en français et en espagnol. Elle n'a jamais été parfaitement à l'aise avec une de ces langues. Et par l'écrit aussi. Ça faisait partie de son style si unique, quoi.
Et c'est une voix de femme comme on ne l'avait encore jamais entendue, cette voix que l'on entend dans son journal.
Oui, je crois. Elle s'est vraiment livrée à elle-même d'abord dans ce journal, parce qu'il faut rappeler que son intention à la base n'était pas du tout de le publier. Comme elle le dit dans l'extrait, elle a commencé très jeune, elle a continué toute sa vie et c'était une drogue pour elle, elle l'appelle comme ça. C'était en tout cas un besoin, des moments d'auto-réflexion, enfin d'analyse. Elle faisait du tri dans sa tête à travers le journal. Et en même temps, elle sublimait aussi, elle inventait, elle se donnait de l'espoir. Et dans un second temps, elle a imaginé le publier et l'a retravaillé. Mais elle part d'un matériau qui est tellement intime et du coup tellement authentique, malgré tous ses mensonges, qu'effectivement c'est une voix unique, je pense.
On entend dans ce journal le cheminement de cette femme pour essayer d'être en accord avec elle-même, en accord avec ses désirs, avec ses pulsions.
Ouais. Elle parle dans l'extrait qu'on vient d'entendre des chocs de la vie, des chocs qui tuent, et une partie d'elle probablement lutte en permanence pour ne pas se laisser mourir. Et je pense que son journal, c'est vraiment aussi cette espèce de bouée de secours qui la tient. Et les choix qui lui ont été reprochés, les choix de tous ces mensonges, de toutes ces doubles, triples, quadruples rôles qu'elle jouait, c'est aussi des stratégies pour rester en vie. Il faut rappeler qu'elle a été victime d'inceste quand elle était enfant, elle a été abusée par son père. Et elle a mis en place toute une stratégie pour survivre à ce traumatisme. Et ensuite, le deuxième traumatisme qui était l'abandon de ce père. Et donc, c'est une femme qui est très perturbée, très fragile, et qui arrive à sublimer tout ça, à en faire une force, à en faire un besoin de créer sa vie pour ne pas la subir quelque part. Et c'est ça qu'elle raconte aussi dans le journal. C'est un combat pour rester en vie et pour non seulement rester en vie, mais vivre pleinement, vivre avec passion. Elle refuse ce qu'elle appelle la rouille de la vie. C'est tout ce qui ressemble à de l'ennui et de la monotonie. Elle n'en veut pas. C'est pas pour elle, c'est pour les autres. Elle vaut mieux que ça. Et cette certitude que la vie vaut mieux que ça, c'est quelque chose qui me porte aussi pas mal de l'avant, ouais.
Et c'est ça que vous montrez, c'est-à-dire vous montrez le cheminement de cette femme au début de votre album. C'est une femme enfermée dans un carcan bourgeois, une femme de banquier. Et à la fin de l'album, on la voit aller de rencontre en rencontre, de rendez-vous amoureux en rendez-vous amoureux.
Je crois que j'ai choisi ce moment-là, outre le fait que c'est le moment où elle rencontre Henry Miller et que c'est du coup un moment très important dans sa vie, mais c'est aussi le moment où il y a vraiment une éclosion qui se produit chez elle. Elle a accumulé depuis l'enfance, depuis l'adolescence, quand on lit ses journaux de jeunesse, c'est très marquant de voir à quel point elle pressent déjà tout le feu, toute la passion qui brûle en elle, et à quel point elle sent déjà la menace de cette vie de petite bourgeoise qui risque de l'enfermer. Et à ce moment-là, elle prend, je crois, la décision de se donner le droit de mentir. C'est quelque chose avec lequel elle avait déjà un peu expérimenté à l'adolescence. Elle ressent par moments une sorte d'ivresse. Elle ment pour des petits riens. Elle invente des trucs alors qu'elle n'a même pas besoin de mentir, juste pour l'ivresse de ce mensonge. Mais elle s'en sert pas encore réellement. Et dans cette période du tout début des années 30, elle se rend compte que c'est là la clé pour ne pas tomber justement dans l'apathie, quoi. Et c'est ce qui lui permet de passer comme ça d'un rôle à l'autre, d'un homme à l'autre, et d'élargir incroyablement les possibilités de sa vie. Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. But she bought from a rubber man. Time for the rubber plants to get rid of itself. The world's around. The world's around.
Jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière de Léonie Bischoff, l'autrice et dessinatrice de bande dessinée. Votre dernier album, roman graphique, évoque donc la romancière Anaïs Nin. Je crois que vous avez réfléchi pendant 8 ans, Léonie, à comment faire avec Anaïs Nin.
Ouais, c'est vrai. J'ai commencé à en parler à mon éditeur il y a environ 8 ans. C'était vraiment une petite idée à l'arrière de ma tête de me dire ce personnage me fascine. En plus, quand je la lis, j'ai une imagination assez visuelle. Donc, je vois des images, je vois les décors, les costumes de cette période de la fin des années 20. J'aimerais tellement la dessiner, elle est tellement inspirante. Et en même temps, à vraiment ne pas savoir par quel bout m'y prendre. Elle a tellement écrit, il y a tellement de thèmes abordés.
Et puis c'est une menteuse, alors en par plus, quel bout la prendre.
Complètement.
Moi je me suis demandé comment on représentait le visage d'Anaïs Nin. Ça aussi, non?
Ouais. Alors là il y a beaucoup de photos et j'aime beaucoup son visage qui est très changeant en fait d'une photo à l'autre. Donc j'ai fait énormément de croquis, d'abord des croquis assez réalistes, un peu moches d'après photo. Et puis petit à petit en regardant de moins en moins les photos et en essayant de trouver ce qui m'attirait le plus chez elle. Donc vraiment ce regard très intense et puis ce nez un peu particulier.
Ouais, elle a des grands yeux, vous la dessinez avec des grands yeux.
Par moments, elle a vraiment dans les photos un visage parfait de star du cinéma muet et à d'autres, elle est vraiment un peu plus étrange. Mais...
Et vous avez eu peur de la trahir, Léonie Bischoff?
Ça a été vraiment un des plus gros obstacles en fait. C'était la peur de passer à côté, la peur d'avoir mal compris, la peur de la trahir, de pas arriver à retranscrire justement toutes les sensations que je ressens en la lisant et que ça tombe à plat une fois que j'essaie de les réinterpréter moi. C'était ça ma crainte principale, je pense. C'est pour ça, probablement, que j'ai repoussé aussi souvent. Donc, à chaque fois que je terminais un album, j'avais quelques semaines, un peu de repos, donc je me replongeais dans ces lectures, je prenais des notes, je recommençais à y penser. Et puis, il y a toujours un moment où je me décourageais. Puis, bon, heureusement, j'ai un autre album à faire, donc c'est bon, on y repensera plus tard. Ça a vraiment pris du temps et c'est justement en réalisant à quel point elle était perçue comme une menteuse et à quel point les biographes, par exemple, disaient qu'elle n'était pas fiable, que personne ne savait vraiment et que je me suis dit, bon, en fait, si personne ne sait vraiment, je peux raconter à ma façon.
Alors, vous avez choisi de raconter la rencontre. La première rencontre avec Henry Miller, qui sera son grand amour, un de ses grands amours.
Oui, probablement. Sans doute la relation la plus constructive et la plus durable dans le temps. Ouais.
Alors voilà ce qu'écrivait Anaïs Nin dans sa correspondance à propos de cette rencontre.
Comment vous ai-je choisi? Je vous ai vu, de ce regard intensément sélectif. J'ai vu une bouche qui était à la fois intelligente, animale et douce. Curieux mélange, un homme humain avec une conscience sensuelle des choses. J'aime la conscience. Vous avez une façon bien à vous de parler, un peu comme un homme du Sud. Entraînant sur les mots, toujours parti dans votre propre voyage intérieur. Une voix qui m'a touchée.
Quelle était cette relation entre Anaïs Nin et Henry Miller?
C'était d'abord une relation de l'esprit. Je crois qu'ils sont vraiment tombés amoureux de l'esprit l'un de l'autre, de l'écriture l'un de l'autre, alors qu'ils venaient de milieux tellement différents et qu'ils auraient pu complètement passer l'un à côté de l'autre, ne pas se comprendre. Et quelque part, ces différences ont nourri, je pense, leurs œuvres mutuelles, parce qu'ils ont vraiment, du coup, travaillé ensemble en tant que... pas officiellement éditeur, mais avec un travail d'éditeur où ils se relisaient, ils se corrigeaient, ils se faisaient des suggestions mutuellement. Ils se vexaient aussi régulièrement l'un l'autre, ils s'énervaient. Et en même temps, je pense que tous les deux y ont énormément gagné. Et dans un second temps, il y a eu ce rapport passionnel, charnel, amoureux, qui a été pour Anaïs Nin un grand bouleversement. Parce que je crois qu'autant elle sentait intérieurement une sensualité qui ne demandait qu'à émerger, autant avec son mari, ils étaient puceaux tous les deux en se mariant, ils avaient aucune expérience. Il faut replacer ça dans l'époque aussi, il n'y avait aucune éducation sexuelle, les gens ne savaient pas comment se faire plaisir en fait. Alors qu'Henry Miller, lui, il avait déjà connu beaucoup de femmes, beaucoup de prostituées, des gens beaucoup plus expérimentés. Il avait sans doute un savoir-faire là-dedans, et puis une sensualité naturelle qui a fait complètement éclore celle d'Anaïs Nin, je pense.
Comment vous représentez cette passion amoureuse avec Henry Miller, entre Anaïs Nin et Henri Miller. Vos dessins sont magnifiques.
Merci. J'ai essayé en fait de rester au plus proche des sensations qu'elle décrit, parce que dans ces journaux, il y a des passages qui sont quand même assez explicites, mais qui sont, à mon avis, jamais gratuits. Elle n'écrit pas de la pornographie juste pour faire plaisir, elle écrit l'érotisme qui la submerge en fait, qui l'envahit et qui du coup lui donne tellement plus de vie, qui la fait vibrer. Enfin, c'est vraiment le héros au sens de pulsion de vie là, qui l'habite et qui va à la fois nourrir sa vie personnelle et sa vie créative. Et j'ai choisi du coup d'essayer d'éviter un peu les poncifs des scènes de cul en BD. Mmh. Parce que bon, il y a des très belles choses hein, dans la BD érotique, mais c'était vraiment pas ce que j'avais envie de faire. C'est en général de la BD faite par et pour des hommes. Et là, j'essayais vraiment de rester au plus proche de sa parole à elle. Et on lui a reproché parfois d'être trop floue, trop poétique, trop abstraite. Et quelque part, moi, j'avais envie de m'approprier un peu sa façon de faire et du coup de faire appel à des images à la limite du kitsch, beaucoup de formes végétales, florales, pour évoquer l'éclosion, la montée de la sève, tout ce genre de choses, des images marines, des images de bateaux, enfin toutes ces choses moins directes pour évoquer plus des sensations.
On a l'impression que c'est des algues, que ça bouge, oui, que c'est en mouvement, que c'est dans un...
Ce mouvement d'anémone porté par...
Ouais, de va-et-vient, de ouais. Ces plantes comme ça, qui mots... l'entourent.
Ouais, c'est des mots qu'elle utilise, des pulsations d'anémone ou des choses comme ça. Et je trouve que ça évoque très bien le sexe féminin avec ses replis, ses pulsations, son humidité, sa chaleur. Et c'est ce que je voulais évoquer aussi, c'est que pour elle, c'est une découverte aussi... grâce au regard et aux mains d'un autre, de son propre corps. Elle avait déjà trouvé, elle évoque la masturbation, elle évoque le fait qu'elle sait se donner du plaisir toute seule, mais elle l'avait jamais connue avec un partenaire. Et je pense qu'il y a une ouverture du corps et de l'esprit qui se fait avec Henri Miller que j'essayais de mettre en scène. Ouais.
Je vous propose d'écouter Henri Miller.
C'est tellement difficile de dire toujours la vérité de toute chose. Je voudrais dire toujours la vérité, mais parfois le mensonge est plus intriguant. Voyez-vous? Et même le mensonge appartient à la vérité. Si on est malin, si on est sage, on peut lire entre les lignes ce qui est faux et ce qui est vrai, à mon avis.
Alors, Léonie Bischoff, c'était un autre de leurs points communs, le mensonge à Anaïs Nin et à Henri Miller.
Oui, tous les deux proclamaient chercher une quête de la vérité, ils voulaient exprimer la vérité, et pour ça, tous les deux se servaient de mensonges avec des styles extrêmement différents. Mais effectivement, ils se retrouvaient là-dessus. Ouais.
Alors, votre roman graphique s'intitule Anaïs Nin sur la mer des mensonges. Pourquoi ce titre ?
Ce titre m'est venu assez vite, en fait. J'avais vraiment envie d'utiliser déjà l'image de la mer, parce que elle l'évoque beaucoup dans ses journaux, et il y a vraiment cette idée d'une sorte d'infini invisible, de profondeur à explorer en soi-même, en les autres. Et puis le mot mensonge, qui est connoté pour nous très négativement, pour elle, ça devient un outil, ça devient une force, ça devient quelque chose de positif. Et du coup, il y avait quelque chose de l'ordre de réclamer, de se réapproprier. C'est une sorte de droit qu'elle se donne, parce que de toute façon, elle n'a pas fait les règles du jeu. Donc, elle se donne le droit de ne pas y obéir.
Alors, mais sur la quatrième de couverture, il est écrit « Chaque homme à qui j'ai fait lire mes textes a tenté de changer mon écriture. Écrire comme un homme ne m'intéresse pas. Je veux écrire comme une femme. Je dois plonger loin de la rive pour trouver les mots. » Sous la mer des mensonges. Ce sont les propos d'Anaïs Nin ?
Non, ça c'est une reformulation. Il y a énormément de citations dans le livre que j'ai reformulées, que je me suis un peu réappropriées, et ça devient un peu confus dans ma tête. Ça fait tellement longtemps que j'y travaille, que je prends des notes, que je les reformule au fur et à mesure, que moi-même, je n'arrive plus à discerner mon Anaïs de l'Anaïs du texte. Donc, plus j'en parle, moins je suis fiable au sens historique. J'ai vraiment dû me l'approprier, en fait, pour arriver à faire cet album et accepter de me détacher. Alors, je pense que je la respecte profondément dans son esprit. Et il y a plein de choses sur lesquelles je suis historique et exacte. Mais le problème, c'est que moi-même, je ne sais plus exactement là où j'ai triché ou là où c'était encore très proche du texte.
Un peu comme elle.
Oui, finalement.
Il y a une chose qui est étonnante aussi, c'est que vous passez pour une intellectuelle et qu'en réalité, vous êtes une parfaite ménagère.
Je dis que ça me donne des forces pour supporter justement ce qui se passe dans le monde. Que si on a une vie intérieure ou un intérieur qui vous donne la sérénité et qui est beau, c'est comme le scaphandrier. Vous pouvez égaler les pressions des tragiques du monde et alors vous pouvez les supporter. Ce n'est pas parce que je les fuis, mais parce que je crois que ça me donne des forces.
Au fond, vous avez... Ce qui est très rare, c'est que je crois que vous avez réussi votre vie et vous avez réussi votre œuvre en même temps.
J'ai réussi quand même par une phrase que j'avais fait, ma phrase de clé, enfin. Je voulais rejoindre la vie extérieure, mais commencer par le rêve.
Et vous y êtes arrivée.
Ça, je suis arrivée beaucoup à transformer la réalité et à les harmoniser, enfin.
Le rêve était très important pour Anaïs Nin, et vous aussi, dans vos dessins, Léonie Bischoff, on passe par moments par des images oniriques,
oui.
Avec ce bateau, entre autres, avec ce double qui apparaît de temps en temps.
Oui, tout à fait. Il faut rappeler que c'est aussi l'époque des débuts de la psychanalyse, on s'intéresse beaucoup aux rêves, c'est aussi l'époque des surréalistes. Tout ça est vraiment dans l'air du temps, en particulier chez les artistes. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a jamais vraiment quitté, en fait, cet intérêt pour nos mondes intérieurs, pour les associations d'idées improbables qui peuvent se faire à la limite du conscient. Pour moi, utiliser ces formes, ces volutes, c'est aussi vraiment juste égoïstement un plaisir de dessinatrice où je peux me laisser aller dans des formes art déco, art nouveau, dans des coiffures. Et puis il y a ce double que vous évoquez qui était très importante pour moi. Plutôt que de dessiner Anaïs écrivant dans son journal, ça a été une des solutions que j'avais trouvées assez vite pour que ça soit plus intéressant. Et puis ça évoque aussi toutes les voix qu'elle a à l'intérieur d'elle-même et une part d'elle qui est probablement plus libre et... qui est symbolisée du coup par cette chevelure complètement lâchée, par une tenue qui ressemble presque à une toge grecque ou romaine. Enfin, c'est une sorte d'allégorie, quoi, ce double. Et elle est très chouette à dessiner parce qu'elle part dans tous les sens un peu. Elle occupe l'espace de nouveau.
Vous parliez de l'importance de la psychanalyse. La psychanalyse a eu une place très importante dans la vie de Anaïs Nin. Et elle dit même que ça lui a permis de se reconstruire.
Oui, alors c'est très particulier vu d'aujourd'hui parce qu'elle a eu un rapport anormal, on va dire, avec ses psys. Elle a couché avec ses deux
psychanalystes.
Oui. Donc elle vient là parler de l'inceste qu'elle a subi enfant, puis adulte avec son père, et en même temps elle se met toujours en position de séduction, et les règles de la psychanalyse, le phénomène du transfert n'avait peut-être pas encore été bien compris. En tout cas, il y a un manque de limites posées de la part de ses analystes aussi. Et ce qui est drôle, c'est qu'ensuite, elle-même, sous la direction d'Autoranque, donc son deuxième analyste, devient psychanalyste, prend des clients, enfin des patients à New York. Et il y a à cette époque-là un flou total. Il y a pas de limite à la relation. Il y a un mélange entre la vie privée et la vie de l'analyse qui est un peu horrifiant vu d'aujourd'hui.
Arrêtez de parler. Vous disiez que de la merde à une vitesse incroyable. Vous disiez toujours la même chose avec une gueule de comptable. Vous disiez que de la merde dans des positions viriles. Vous disiez toujours la même chose comme si on était débiles. Et vous pouvez, vous saurez, vous savez, vous devez.
Il est à moi. Bébé panda,
arrêtez de parler.
Il est à moi.
Arrêtez de parler.
Et tu l'as pris pour toi, le bébé panda. Tu dis que tu ne voyais pas sa main. opinion comme un con. Je sais pas s'il est bon. Même le président Macron ne sait pas s'il est bon. Même le président Macron ne sait pas s'il est bon. Comme un con.
Tu veux faire la révolution ? T'apprends d'abord à avoir un diplôme et...
Arrêtez de parler. Arrêtez de parler.
Tu pourras.
Arrêtez de parler. Arrêtez de parler.
Tu saurais.
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Mon Léonie Bischoff, elle était complètement dingue, cette chanson.
C'est très étrange.
Mais ça ne nous était pas adressé hein, d'arrêter de parler.
Je ne l'ai pas pris contre moi.
Ce n'était pas non plus pour les psychanalystes, mais bon, c'était plein d'imagination.
C'est sûr.
Alors, le 2 septembre 1995, c'est votre journée particulière, Léonie Bischoff. En 95, dans un tout autre style, Céline Dion faisait un carton avec sa chanson « Pour que tu m'aimes encore ». Les Cranberries chantaient
« Zombie ».
Absolument. Mmh. Et on dansait sur « Gangsta Paradise » de Coolio.
Ouais. 14 ans, l'âge ingrat des booms et des...
Est-ce que vous aviez déjà les cheveux de... Parce que là, vous avez les cheveux rouges.
Non, alors pas du tout. J'étais une adolescente très discrète, très timide, lectrice, pas sportive et surtout ne pas me faire remarquer.
Donc pas du tout.
Non, les cheveux roses, c'est récent.
Alors en janvier 95, le Japon subissait un terrible tremblement de terre à Kobe. Et en mars, un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Vous vous souvenez
ouais,
de ça, les
émissions ? Alors ça, je me souviens effectivement d'avoir eu peur. J'étais lectrice de Stephen King, adolescente. J'avais lu Le Fléau. L'idée d'une guerre bactériologique m'avait bien fait peur. Ouais.
Alors j'imagine que vous avez eu très peur aussi quand Jacques Chirac, tout juste élu président de la République française, avait annoncé la reprise des essais nucléaires.
Ouais, c'était quelque chose qui semblait appartenir au passé. Et à cette époque-là, en plus, dans la veine de Alien, j'avais découvert l'artiste suisse Giger, qui avait fait tous les décors, et qui avait une série de dessins absolument horrifiantes sur les enfants atomiques. Et je pensais vraiment que depuis Tchernobyl, on allait arrêter tout ça. Et ça m'avait complètement choqué qu'on continue à faire des essais pour se servir de ce genre de choses.
Alors, naturellement, nous préférerions tous ne pas avoir à reprendre d'essais nucléaires. Malheureusement, nous les avons arrêtés un peu trop tôt. Les essais nécessaires sont au nombre de 8. Vous savez que ces essais se passent dans le Pacifique Sud, qu'ils ont lieu dans des conditions où, sans entrer dans les polémiques, il n'y a strictement aucune conséquence écologique. Ils interviendront à partir du mois de septembre et seront en tous les cas terminés fin mai 1996.
Strictement aucune conséquence écologique, Léonie
oui,
Bischoff.
Bien sûr.
Alors pour terminer cette émission, une voix que je pense que vous aimez bien, c'est Tardi.
Ah oui.
Tardi parlant d'une de ses héroïnes, Adèle Blanc-Sec.
Pourquoi une héroïne ? C'était un petit peu... en réaction à ces héroïnes qu'on voyait toujours dans des bandes dessinées érotiques. Ce que je voulais, c'était avoir une nana tout à fait normale, entre guillemets, qui montre pas son cul toutes les cinq minutes, qui soit, je veux dire, c'est pas tellement l'anti-Barbarella, c'est peut-être aussi l'anti-Blueberry, l'anti-héros traditionnel de bande dessinée, l'anti-Tintin. C'est un personnage qui contrôle pas la situation. C'est vraiment pas le héros qui décide le matin en se levant de faire ça, qui le fait, qui a une mission à accomplir. C'est pas du tout ça. Ces personnages qui sont un petit peu débordés me paraissent plus humains que le héros traditionnel. Moi, j'y crois pas, ces gens-là. Je les trouve absolument pas crédibles. Moi, c'est ce que je ressens. dans le quotidien, c'est ce que je ressens. Des moments où je contrôle rien du tout, je sais absolument pas ce qui se passe. La journée vient de s'écouler, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi. J'ai vu des gens, je suis allé à des rendez-vous, j'aurais jamais dû y aller. C'est un petit peu les choses que je ressens, moi. Donc ça se retrouve chez Adèle Blanc-Sec. Elle bougonne, mais elle y va quand même. Je crois que c'est un petit peu mon caractère aussi.
Adèle Blanc-Sec a une place importante dans votre panthéon d'héroïnes de science-fiction.
Oui, tout à fait. Ben, j'ai grandi dans les années 80, donc en bande dessinée, des héroïnes, il y en avait très peu, surtout dès qu'ils soient habillés et qui aient un vrai caractère, quoi, des vraies répliques. Et effectivement, Tardi avec le côté bougon, moi j'aime beaucoup Adèle Blanc-Sec pour ça aussi. Elle est toujours grincheuse, elle a toujours un demi-gueule de bois en train de fumer des clopes dans son bain. Je sais pas, oui, elle m'inspirait beaucoup. Et c'était aussi un peu, faut l'avouer, par défaut, quoi. Parce que sinon, j'avais pas grand-chose à me mettre sous la dent, quoi.
Et vous vous reconnaissez dans le rapport au personnage que vous créez ?
Sans doute, oui, parce que j'essaye d'avoir des personnages... Je fais pas des super-héros, je fais pas des personnages omniscients. Ils sont pas maîtres, effectivement, de leur univers. Ils subissent un peu et ils essayent de s'en sortir à partir de là.
Et le prochain ? Alors, est-ce que vous avez une idée de votre... Alors, j'allais dire de votre prochaine héroïne ?
Oui, alors c'est pas encore très clair. Je travaille plus sur des thèmes, des thèmes qui sont déjà présents en fait dans Anaïs Nin ou dans les autres albums sur lesquels j'ai travaillé avant. C'est toujours des personnages de femmes qui cherchent à étendre leur possibilité, leur champ d'action, à ouvrir des portes, à se donner plus d'espace. Et je crois que c'est on ressent en tant que femme en 2020 peut-être la possibilité d'être plus entendu et de gagner plus d'espace dans l'espace public, dans les prises de décision. Et c'est des thèmes qui, je pense, nous travaillent beaucoup. Et on commence peut-être aussi à se rendre compte réellement de l'ampleur de la domination qu'on a subie. À quel point c'est pernicieux, à quel point c'est partout. Et j'ai envie de passer par la fiction pour explorer ça, mais peut-être à travers des choses fantastiques aussi. Enfin, c'est encore un peu flou. Ça va partir de quelque chose d'assez sombre. Je pense roman gothique, je pense... Je ne sais pas encore. C'est un peu trop tôt pour en parler.
Bon, on en parlera peut-être une prochaine fois. En tout cas, merci Léonie Bischoff d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci mille fois à vous.
Merci. Votre roman graphique, donc Anaïs Nin, Sur la mer des mensonges, est publié aux éditions Casterman. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combes, Alina Anne Delaveau, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique aujourd'hui Clément Berman. On se retrouve dimanche prochain. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site de France Inter. Bon week-end.